Bonjour, vous écoutez Résonance, l'émission d'information locale d'Univers 99.9. Cette édition, nous allons à Quévert pour rencontrer Olivier Blanchet de l'entreprise Crin d'Herbe. C'est une entreprise d'éco-pâturage et bien il va nous expliquer comment s'est montée cette activité, en quoi elle consiste, à qui elle s'adresse. C'est tout de suite dans Résonance. Vous écoutez Univers 99.9. Je suis ici à Quévert, chez Olivier Blanchet. Olivier Blanchet, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Donc, je suis ici pour discuter avec vous de cette entreprise Crin d'Herbe. Et je voudrais savoir tout simplement de quoi s'occupe-t-elle et comment a-t-elle été mise en place, d'où vient ce projet ?
Alors, cette activité vient déjà de ma passion ancienne, qui est donc le poney Shetland. Je suis issu d'une famille d'éleveurs qui possède donc un élevage de poney depuis maintenant une trentaine d'années. Et il y a maintenant 3 ans, donc j'ai créé cette activité d'éco-pâturage à partir du cheptel déjà existant. Moi, j'ai une formation en agriculture, plus précisément en production animale, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire dans ce domaine-là, et que l'écologie s'intégrait de plus en plus les villes et les campagnes également, et qu'il y avait un petit peu d'intérêt sur cette activité d'éco-pâturage, activité naissante, mais qui reprend des fondamentaux de l'activité de pâturage, qui est une très vieille activité au final.
Donc l'idée, c'est, bon, de manière caricaturale, on va dire, c'est de remplacer les tondeuses, tous les outils mécaniques d'entretien, et autant qu'on le peut, les remplacer par des animaux.
Voilà, exactement. Faut savoir, si on réfléchit un petit peu, les tondeuses, ce sont des outils relativement récents qui sont apparus dans la moitié du XXe siècle. Mais avant l'apparition des tondeuses, ou du moins de tous ces engins tranchants, on a effectué beaucoup de choses avec les animaux. Donc des animaux qui sont à la base herbivores, des moutons, des chèvres, des vaches, des chevaux, mais aussi des oies, des lapins, des animaux auxquels on ne pense pas forcément, mais qui consomment de l'herbe. Par exemple, il y a très longtemps, le parc du château de Versailles était entretenu uniquement avec des moutons, du moins pour tendre, pour pâturer les grandes plaines vertes. Donc aujourd'hui, on revient un petit peu à ces fondamentaux dont je parlais tout à l'heure. On réutilise des choses déjà existantes pour se passer d'outils qui nuisent un petit peu aujourd'hui à nos contextes de vie actuels. Les tondeuses, ça reste polluant, ça fait du bruit. Certes, c'est rapide, ça permet un rendu impeccable, mais des fois, on a envie d'un petit peu autre chose, un peu plus de tranquillité, un peu plus de nature, un aspect un peu moins moquette, préserver un petit peu des fleurs, des choses comme ça. Chose que l'éco-pâturage, lorsqu'il est bien mené, permet de préserver ces aspects-là.
Alors, pour en revenir à l'activité, votre activité précisément, combien de poneys avez-vous dans cette entreprise ?
Donc aujourd'hui, le cheptel se compose de 25 animaux, toutes catégories confondues. Donc on a des juments reproductrices. Cette année, on a fait naître 5 poulains. On a des mâles reproducteurs, des jeunes qui sont en croissance. Ce qui fait que sur nos 25 animaux, aujourd'hui, on en a à peu près une douzaine qu'on consacre donc à l'éco-pâturage. Donc ce sont des poneys dont le comportement est sûr. On sait qu'on peut les confier à des personnes, dans des entreprises, de façon à ce qu'ils puissent pâturer en tranquillité, sans être sujets à des maladies ou à des problèmes de comportement qui sont très rares, mais qu'on peut quand même rencontrer des fois chez des jeunes animaux ou des mâles reproducteurs, par exemple.
Pour qui intervenez-vous donc dans cette entreprise d'éco-pâturage ? Quels sont vos clients ?
Alors, les clients à la base peuvent être très divers, des particuliers, des collectivités, des maisons de retraite, des écoles. L'activité a commencé, on a fonctionné beaucoup avec le bouche à oreille, donc c'était des particuliers, souvent des retraités ou des familles avec des enfants qui, en plus d'associer comment l'utilisation des poneys pour entretenir leurs espaces, était aussi de trouver une activité un peu ludique, une animation. Et puis ensuite sont arrivés, lorsqu'on a fait un petit peu de publicité, sont arrivés les écoles, les maisons de retraite. Donc aujourd'hui, on travaille également avec des écoles primaires qui intègrent donc des animations avec les classes autour du thème de l'animal ou de l'écologie, et des maisons de retraite, donc là, qui trouvent vraiment un vrai plus sur l'animation auprès des personnes. Donc certes, les animaux peuvent entretenir un espace vert, mais surtout amener beaucoup d'animation et d'activités. On peut greffer beaucoup d'activités juste avec la présence des animaux pour animer un peu le cadre de vie des résidents, par exemple, quoi. Et les collectivités s'y mettent également. Ça prend un petit peu plus de temps. Il y a peut-être plus de contraintes liées à la sécurité, je suppose. Mais voilà, ce sont des projets aussi qui se mettent en place doucement auprès des collectivités.
Vous êtes membre du réseau d'économie sociale et solidaire. En quoi cette activité, justement, s'intègre dans l'idée d'une économie plus respectueuse de son environnement et puis aussi d'un vivre ensemble plus convivial, plus solidaire?
Alors, avant de commencer Crin d'herbe, je ne connaissais pas du tout ces réseaux. Je pense que c'était aussi un petit peu en train de naître. Moi, j'ai commencé mon activité en m'associant à une coopérative d'activité d'emploi, donc qui était basée sur le pays de Redon, qui s'appelle Interactive. Donc, est une coopérative qui permet à des entrepreneurs de se lancer facilement, du moins sans les contraintes administratives qu'il peut y avoir au début quand on se lance. Et donc, en faisant partie de ce réseau-là, ça m'a permis de découvrir qu'il y avait toute une activité professionnelle très dynamique dans ce qu'on appelle donc l'économie sociale et solidaire, le développement durable, qui touche également à l'écologie. Mais en règle générale, c'est des activités qui touchent au bien-être humain, j'ai envie de dire. Donc, en règle générale, dans ces entreprises, on essaie d'avoir une activité professionnelle respectueuse de l'humain. Donc, pour ça que la part sociale est très importante. Et on se rend compte que lorsqu'on touche à l'humain, on touche également à l'environnement, donc à l'écologie. Donc, c'est un... selon moi, en tout cas, l'économie sociale et solidaire, c'est un peu un package où les entreprises et leurs clients sont dans le même état d'esprit. On cherche à développer donc un réseau professionnel tout en préservant l'environnement, tout en veillant sur les personnes qui nous entourent, les personnes dans notre réseau. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'émulation. Les entreprises qui intègrent ces réseaux-là communiquent beaucoup, essaient de travailler ensemble tant que possible. Et au final, ça forme un petit peu... comme une petite famille d'entreprises dans un secteur commun.
Est-ce que vous pourriez aussi développer, parce que j'imagine que cette activité, donc c'est une activité économique, mais c'est aussi sans doute une passion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient cette passion-là ?
Alors, ma passion, moi, je suis né donc dans une famille dans laquelle on élevait déjà des poneys Shetland. Il y avait 3 poneys qui étaient uniquement là pour faire plaisir à mon grand frère de l'époque. Et j'avais donc un grand-oncle qui élevait lui des poneys au moment de sa retraite. Et je passais toutes mes vacances chez lui pour profiter un petit peu des poneys. C'est là où j'ai également découvert l'équitation, que je pratique toujours actuellement. Et depuis cette enfance, le contact avec les poneys, je l'ai toujours eu. Donc l'élevage à la maison s'est beaucoup développé. Et on se rend compte que ce sont des animaux très très attachants, dont il est facile d'apprendre plein de choses quand on est enfant, parce qu'on peut les associer à plein d'activités, du moins quand on vit en campagne. Et puis c'est des animaux également qui sont très rustiques, donc on peut tout à fait en avoir chez soi sans dépenser beaucoup beaucoup d'argent pour leur gestion. Mais ça demande quand même certaines connaissances. Donc moi, ça, voilà, c'est une passion qui est très ancienne. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi est-ce que je suis si attaché à ces bêtes. Mais si, j'ai peut-être une trame de réponse quand je vois que lorsque mes animaux sont placés chez des gens qui ne connaissent pas forcément les chevaux ou du moins les poneys, les gens peuvent s'y retrouver très facilement, tisser des liens peut-être pas des liens d'amitié, mais en tout cas des liens sympathiques avec ces animaux. Donc voilà, la passion aujourd'hui, elle s'est un petit peu transformée en ça. C'est de voir que des gens profitent également, comme moi j'ai pu profiter avant, de mes animaux. C'est ça qui me fait plaisir actuellement.
C'est faire partager une passion aussi, cette activité.
Bah, c'est partager une passion, mais c'est aussi faire découvrir un animal que les gens ne connaissent pas forcément. Le poney Shetland, on le connaît aujourd'hui parce qu'il est dans les centres équestres. C'est l'animal qu'on monte quand on commence l'équitation. Mais il faut savoir qu'avant de l'employer pour l'équitation, c'est des poneys qu'on ne connaissait pas, qui viennent donc d'une île qui s'appelle les îles Shetland au nord de l'Écosse. Une île où les conditions de vie sont assez extrêmes. Il fait froid. Quand il ne pleut pas, il y a de la neige ou du vent. Donc voilà, c'est un des animaux qui se sont habitués à ce contexte de vie-là. Et il y a beaucoup d'autres choses à apprendre chez cet animal qui peut nous apprendre plein de choses quand on le sort de son contexte de centre équestre tel qu'on le voit aujourd'hui. Il a souvent une mauvaise réputation parce qu'il peut mordiller un peu les enfants, bousculer, voilà, le caractère un petit peu dur. Mais quand on le sort de ce contexte qui n'est pas du tout naturel qu'est les centres équestres, quand on le remet dans un troupeau avec ses congénères, dans un cadre de vie beaucoup plus normal pour lui, on se rend compte que c'est un animal tout à fait sympathique, très docile, donc contact est très facile. Et j'essaie de transmettre un peu ça lorsque je place mes animaux chez la clientèle aujourd'hui.
Une autre question, d'un point de vue plus général, ces entreprises, enfin cette activité d'éco-pâturage, c'est quelque chose qui se développe plus généralement et qui accompagne ce souci d'un développement plus proche, d'un développement écologique en équilibre avec notre environnement. L'éco-pâturage, d'un point de vue général, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
Mais déjà, l'éco-pâturage, ne serait-ce que le mot éco-pâturage, en soi, il ne veut rien dire. Il associe juste le pâturage, donc, qui est l'activité de faire paître des animaux, et éco, donc éco, ça peut être écologie, économie. On se rend compte que c'est un préfixe qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc, le fait de l'associer éco-pâturage amène tout de suite une image, disons, verte ou intéressante à l'activité de pâturage. Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Entretien Nature et Territoire, association dont je fais partie, qui essaie de mettre en avant justement ces activités d'éco-pâturage lorsqu'elles sont proposées par des prestataires, donc comme moi, ou lorsqu'elles sont développées, par exemple, par des communes qui achètent leurs propres troupeaux et qui essaient de les gérer en interne. On se rend compte qu'il y a plusieurs possibilités de développer l'éco-pâturage. Il y a plusieurs façons de faire. Mais qu'au final, le résultat est le même. L'objectif, c'est d'apporter une nouvelle ou une autre façon de gérer des espaces verts. Alors, quand je dis espace vert, c'est très large. Hein. Ça peut aller de la pelouse qu'on a semée nous-mêmes à des zones humides en friche ou des bosquets qui peuvent également être pâturés. Donc voilà, c'est essayer d'employer des nouvelles méthodes plus propres pour l'environnement, également plus respectueuse de l'homme, comme je disais tout à l'heure, du fait que ça ne fasse pas de bruit, qu'il n'y ait pas de rejet de CO2. Alors certains vont nous dire oui, mais il y a des excréments. Mais les excréments des animaux peuvent être très très bien gérés par le compostage, par exemple. Donc, par exemple, le ramassage des excréments, du crottin pour les chevaux, permet de faire du compostage, donc de développer de nouvelles activités. J'ai dans ma clientèle des gens qui ramassent le crottin, qui les mettent dans leur plat-banc, dans les potagers. Donc, ils associent, ils trouvent du bénéfice dans cette activité-là pour développer d'autres choses. Donc, l'éducation aussi des enfants, aller comprendre ce que l'action d'un animal sur l'écosystème d'une pelouse, il y a plein de petites choses, plein de petites interactions qui se créent. Si on ne s'y intéresse pas, on ne va pas en tirer beaucoup d'intérêt. Mais quand on creuse un petit peu, ça permet de développer nos connaissances et de se rendre compte que c'est une façon de gérer les espaces qui est très intéressante sur plein d'aspects.
Olivier Blanchet, merci. Voilà, c'était Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Si vous voulez retrouver ce reportage, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la radio www.radio-univers.com. Salut !